Bonjour. Alors aujourd'hui, nous avons fait le choix de faire une émission sur l'Irak. Donc pour cela, nous avons invité deux personnes, donc Raja et Myriam. Bonjour.
Bonjour.
Alors Raja est irakienne. Elle est arrivée en France depuis quelques années et était journaliste en Irak. Donc elle va pouvoir nous parler de ce qui se passe en Irak. De même, Myriam est algérienne et est arrivée en France il y a quelques années et était journaliste aussi en Algérie. Et elle vient discuter avec nous de l'Irak, mais du point de vue, bien sûr, des médias algériens. Donc, en effet, nous avons choisi ce sujet, bien que beaucoup abordé par nos médias traditionnels ces dernières années, suite aux dernières guerres en Irak, comme celle de 2003, avec, je vous rappelle, tout ce qu'on disait, Saddam Hussein, les armes de destruction massive, etc. Donc, cette émission sera plus axée sur la présentation de l'Irak à travers sa destruction programmée par l'Occident, car l'Irak est détenteur de pétrole, et les conséquences de cette destruction par la guerre sur le quotidien des femmes irakiennes. Donc, à travers deux témoignages des personnes que j'ai invitées. Donc, pour que vous ne soyez pas perdus, je vais faire un très rapide résumé historique de l'Irak au XXe siècle. En effet, la guerre pour le pétrole, puisque c'est de ça qu'il s'agit, en Irak a commencé au tout début du XXe siècle. En fait, l'Occident cherche depuis plus d'un siècle à avoir la main mise sur le pétrole et donc sur l'Irak. Les différentes puissances occidentales ont cherché à avoir du pouvoir en Irak. Donc, tout début du XXe, alors que l'Irak était encore sous l'emprise de l'Empire ottoman, c'est l'Allemagne qui s'est octroyé le droit d'exploiter les richesses minérales des sous-sols de l'Irak. Donc déjà, tout début du XXe, c'est l'Allemagne qui prend ses droits en Irak. Ensuite, à la défaite de l'Empire ottoman en 1920, c'est au tour de la Grande-Bretagne d'asseoir son pouvoir dans la région. Donc pour cela, par exemple, la Grande-Bretagne a fixé certaines frontières, dont la séparation de l'Irak et du Koweït, ce qui avant c'était le même territoire. S'il voulait éviter la concentration du pétrole dans un seul et même pays. Et rappelons que la création de cette frontière est une des raisons de la première guerre du Golfe, parce que Saddam Hussein cherchait à récupérer le Koweït. La création de cette frontière, donc par les Occidentaux, pour le pétrole aura pour conséquence des centaines de milliers de morts. Donc après l'Allemagne, l'Angleterre, c'est ensuite les États-Unis qui ont cherché à prendre le pouvoir en Irak. Après l'affaiblissement de l'Allemagne et de l'Angleterre après la Seconde Guerre mondiale. Donc tout d'abord, ils ont cherché à contrôler l'Irak avec différentes stratégies politiques qui ont peu à peu échoué et donc ils sont rentrés en guerre. Donc nous, on va plutôt s'intéresser aux 30 dernières années, c'est-à-dire à partir de 1980. Pour vous faire très rapide, donc 1980-88, c'était la guerre Iran-Irak. Ensuite, en 91, il y a eu la première guerre du Golfe, suivie de 13 années d'embargo. Ensuite, en 2003, la dernière guerre avec les États-Unis. Donc, on va faire une petite pause musicale avant de lancer le débat. petit intermède musical. Nous allons voir l'Irak avant les guerres, donc avant 1980, l'Irak sous Saddam Hussein. Donc, je ne sais pas, Raja, est-ce que tu peux nous parler à quel moment Saddam Hussein est arrivé, dans quelle partie il était, etc.
Oui, effectivement, Saddam Hussein était le président de l'Irak entre 1979 et 2003, avant d'être renversé lors de l'invasion de l'Irak en 2003 par les États-Unis, le Royaume-Uni et une coalition de pays. Alors, pendant toute cette période, l'Irak a été laïque et c'est le parti basse, en arabe on dit Hizb al-Ba'ath et en français on dit la renaissance ou la résurrection. Et bien, c'était un régime laïque. C'était la séparation entre la religion et l'État. Ça veut dire que les lois islamiques n'interviennent pas dans la politique. Voilà, tout le monde exerçait sa liberté, bien sûr, sauf la liberté politique. C'est vrai, on n'avait pas liberté politique. Mais à part ça, on vivait normalement. Les femmes, les hommes vivaient le quotidien normalement.
Oui. Qu'est-ce que tu entends par absence de liberté politique pour voir les limites?
C'était le parti basse, voilà, qui gouvernait. Et c'est un parti unique et il ne fallait pas toucher ni le parti ni la famille voilà, de Saddam Hussein. Et si, voilà, si on ne s'exprime pas, ben on peut vivre très bien. Il ne touche pas. Ouais.
Si on peut juste rajouter que Saddam, il faisait exécuter tous ses opposants et, ouvertement, sans se cacher. Donc, il y a eu pas mal d'exécutions dans les années 80, surtout du côté chiite.
Oui. C'est enfin pas seulement les chiites. Il y avait même des sunnites. Mais ce sont des gens, voilà, qui des opposants. Il fallait pas être opposant.
Mais malgré cette absence de liberté politique, justement, quand même, la société irakienne dans la fin des années 70 était assez développée. Parce qu'on peut rappeler qu'en 1975, le parti basse a nationalisé le pétrole.
Oui.
Et
oui.
Pour récupérer l'argent pour faire développer justement la société.
Ben, donc, exactement.
Oui, oui. Justement, parle-nous un peu c'est un peu une sorte d'âge d'or, des années 70, début 80, comment ça se passait en Irak?
Oui. Justement, la société irakienne avait connu dans les années 1970 une sorte d'âge d'or, vous avez raison, au plan matériel, ainsi qu'en termes de développement humain, notamment en matière d'éducation et de santé. Les écoles, les universités étaient gratuites. On avait le droit de faire des études sans payer. Et les femmes ont le droit d'exercer tous les métiers. Il n'y avait pas de distinction. Il n'y avait pas des métiers où les femmes ne peuvent pas exercer. Le salaire est égal aux hommes. Et pas de distinction.
Oui, on peut rappeler au niveau des professions. Par exemple, au niveau des enseignants, au début des années 80, 40% des enseignants sont des enseignants, 31% des médecins sont des femmes, 30% des fonctionnaires sont des femmes.
Oui.
Donc, effectivement, les femmes sont quand même assez présentes parce qu'elles ont pu aller à l'université de la même manière.
Je rajoute juste que cette image-là du développement de l'Irak était fortement exportée. Donc, par exemple, nous, en Algérie, on voyait des documentaires sur l'Irak. On enviait un petit peu les Irakiens, mais franchement, matériellement, c'est vrai qu'il a pas mal exploité cette richesse pétrolière, cette rente pétrolière dans le développement des infrastructures, dans l'éducation, etc., etc.
Oui, il est même dit que dans la fin des années 80, l'Irak était au niveau de l'industrialisation, au même niveau que les pays européens.
Exactement.
C'est vraiment les guerres programmées pour la destruction de l'Irak qui ont ramené l'Irak quelques années en arrière.
Oui, il fallait. C'est on l'a puni quoi. C'est parce que l'Irak est devenu un pays très développé. Il fallait l'affaiblir.
Très en avance par rapport aux ses voisins.
Oui.
Il avait la mainmise sur le pétrole.
Oui.
Aussi.
Après la nationalisation du pétrole, l'Irak a constitué, une menace aux yeux de l'Occident, quoi.
Et donc, à partir de ce moment-là, ça s'est dégradé et que les guerres ont commencé. On va enchaîner sur les guerres après un autre intermède musical. créer donc cette petite âge d'or de l'Irak. En 1980, l'Irak entre en guerre contre l'Iran.
Et cette guerre dure 8 ans, de 1980 jusqu'à 1988. Et elle fait un million, même plus d'un million de victimes. Et la majorité des pays arabes ont soutenu, surtout les pays du Golfe, ont soutenu Saddam Hussein dans cette guerre. Et les pays occidentaux ont aidé aussi Saddam Hussein, mais ils vendaient des armes à l'Irak comme à l'Iran. Et bien sûr, c'est pour faire travailler la fabrication des armes. Et c'est pendant cette période, tandis que les hommes étaient à la frontière, que les femmes travaillaient. Et pendant quelques années, Saddam Hussein avait même interdit aux femmes de quitter le pays pour rester à l'intérieur, travailler et remplacer les hommes.
Oui, c'est ce que tu m'expliquais, parce que toi-même, tu étais partie à l'étranger et tu es revenue et finalement, tu n'as pas pu repartir.
Oui, exactement. J'étais en France. Oui.
Et, et quand tu es revenue, tu n'as pas eu le droit de repartir pour devoir travailler, pour remplacer les hommes dans le pays qui étaient tous à la frontière.
Exactement. Oui, oui. Je ne le savais pas. J'étais en France et puis quand je suis revenue en vacances, j'avais plus le droit de repartir parce que j'ai compris que ça a été interdit. Les femmes ne pouvaient pas quitter le pays parce qu'il fallait rester travailler, les hommes étaient à la frontière. Et du coup, ces femmes, nous sommes devenues vraiment le maître de famille, quoi, parce que les hommes sont absents, ce sont les femmes qui géraient tout. Mais le problème, c'est que parmi ces femmes, beaucoup sont des veufs ou des femmes, des soldats disparus parce que les hommes allaient à la frontière, puis ils ne revenaient pas. Et on les a appelés des soldats disparus ou des officiers disparus parce qu'on n'a plus de nouvelles.
Et vous n'avez pas retrouvé les corps, vous ne saviez pas s'ils étaient prisonniers ou tués, etc.
Jusqu'à maintenant.
Toujours pas.
Oui, toujours pas. Et il y avait beaucoup d'orphelins, bien sûr. Et il y avait presque un million et demi de morts. Et ces hommes qui sont morts ont des femmes. S'ils sont mariés ou des filles ou le malheur a commencé pendant ces années. Et après, en 1988, la guerre s'est arrêtée et puis l'Irak est sorti endetté. Il était endetté de 10 milliards de dollars à peu près. Et le Koweït, surtout avec le Koweït.
Il devait de l'argent au Koweït.
Au Koweït,
ouais. Le Koweït qui avait été séparé 50 ans plus tard de l'Irak par les Anglais.
Oui, oui. Et tous les pays du Golfe aidaient Saddam Hussein dans cette guerre parce qu'on disait que Saddam faisait la guerre à la place de la nation arabe. Ça a duré 8 ans. Et quand la guerre est finie, Saddam a dit, moi je défendais toute la nation arabe, il fallait annuler ses dettes. Et puis le Koweït ne voulait pas annuler les dettes. Pendant 2 ans de 88-90, Saddam négociait. Et impossible. Tandis que pendant cette période, le Koweït exploitait le pétrole irakien pendant 8 ans, pendant que l'Irak était occupé avec l'Iran. Et Saddam avait dit, c'est ce que vous avez exploité, ça a un prix aussi. Et du coup, Saddam Hussein a envahi le Koweït. Envahi, mais en disant, on récupère le Koweït. Et sous-entendu, il avait l'autorisation des États-Unis. Le 17 janvier 1991, l'opération Tempête du désert a commencé. Les États-Unis, plus que 30 autres pays, envahissent l'Irak.
Oui, c'est ça, c'est la première guerre du Golfe. Donc, il faut rappeler que ce n'est pas seulement les États-Unis qui ont envahi l'Irak, mais 30 pays dans le monde.
Oui, je voulais juste rajouter que dans le monde arabe, ce qui a été perçu, c'est vrai que l'Irak est sorti très épuisé, très endetté après la guerre 80-88 contre l'Iran. En fait, il faut dire aussi que l'Irak, à ce moment-là, il repoussait un petit peu l'émergence du chiisme dans le monde musulman. Donc, il avait l'appui et le soutien de l'Arabie Saoudite, bien sûr. Mais après la guerre, il a demandé donc une compensation financière. Les pays arabes ont refusé et ce qui a amené l'Irak à envahir le Koweït pour récupérer un petit peu, son argent, son pétrole. Voilà.
Oui, oui, c'est vrai, parce que, enfin, dans les pays du Golfe, la majorité est sunnite. L'Iran est un pays presque 100% chiite. Et pour ça, quand Saddam Hussein disait, ben moi, je fais la guerre à la place de la nation arabe, c'était ça.
Tout à fait.
Oui, oui. Et bien après, il y avait, c'est vrai, les chiites se soulèvent dans le sud de l'Irak. Malheureusement, ben, ils pensaient que les États-Unis allaient les soutenir. Mais non, ils n'ont rien fait parce que les Américains n'avaient pas trouvé un remplaçant de Saddam Hussein. Ils ont préféré le garder et du coup, ben, ils ont trahi les chiites en Irak. Et c'est là que l'embargo a commencé.
Oui, une sanction des États-Unis.
Voilà.
Embargo long de 13 années.
Oui, 13 ans. Et l'embargo contre l'Irak est imposé, bien sûr, par les Nations Unies. Et l'Irak a été privé de tout pendant 13 ans. Et les conséquences étaient tragiques, catastrophiques. Il y avait presque 1,5 million d'enfants morts de malnutrition.
Oui, tu peux nous décrire un peu, en fait, l'embargo. Enfin, c'est vraiment un pays renfermé sur soi-même, c'est ça?
Oui, c'était un pays renfermé, bien sûr, sur soi-même. Et aucune ouverture. Et pas de médicaments, pas de nourriture. Les 3 premières années de l'embargo ont été très dures. Et les enfants naissaient avec des malformations dues à l'utilisation aussi d'armes à l'uranium appauvri. Ce qui est contradictoire, c'est que l'objectif de l'embargo était la destruction de potentiel militaire irakien, oui, mais le résultat était et la libération du Koweït, mais le résultat était en 6 semaines, les États-Unis, enfin les pays alliés, quoi, ont lancé 80 000 tonnes de bombes. Et vous pouvez imaginer ce que ça peut provoquer comme dégâts. Et tout de suite après l'embargo, oui, oui. À la suite de ces bombardements, des milliers de familles sont forcées de fuir le pays. Et il y avait presque 100 000 soldats irakiens qui étaient tués. Et puis beaucoup de victimes civiles. Et puis, ben, je ne sais pas si vous voulez que je vous raconte l'embargo, ben, il nous faut des jours et des jours.
Oui, mais tu peux nous donner quelques exemples concrets de la vie quotidienne.
Oui, en fait, la vie quotidienne a été très très dure, mais Saddam Hussein avait essayé de trouver quelques solutions pour nous inculper. Et moi, je me souviens très bien de ce qu'il avait fait. Parmi les choses qui sont bien qu'il a fait, c'est l'ouverture des universités du soir pour tous les fonctionnaires qui travaillaient le matin et qui rentraient chez eux sans pouvoir faire grand chose. Alors, c'était en 96 et ça, les universités sont devenues vraiment le lieu de rencontre entre les femmes, les hommes, les jeunes, et puis même les médecins, les ingénieurs, enfin, tout le monde qui avait envie de reprendre ses études ou de recommencer. Et on restait tard le soir à l'université parce que après le travail, on allait directement à l'université. Et puis, il y a eu beaucoup d'histoires d'amour. Voilà, jusqu'au 2003, cette dernière guerre, l'invasion américaine a tout détruit. Et malgré, enfin c'est ça, Saddam Hussein était, c'est vrai, dictateur, c'était un régime dur. Mais maintenant, quand on se souvient de ce qu'il a fait, ben il était bien, on le trouve bien. Il y avait au moins la sécurité.
Voilà, c'est plutôt livré. La différence avec maintenant, on est en état de guerre en Irak, donc il y a toute l'insécurité et tout. Avant, même s'il y avait l'absence de liberté politique, au moins, vous n'étiez pas en guerre, c'est surtout le décalage.
On avait notre liberté. Moi, comme j'ai dit, enfin, si on ne le touchait pas, ben, on vivait, on voyageait, on avait une vie normale.
D'accord, ben, merci. De toute façon, on va donc sur cette première guerre du Golfe, là, comme on vient de dire. C'était donc une bonne partie des pays dans le monde, une trentaine de pays. Et donc, Myriam va nous raconter comment c'était vu en Algérie et surtout quelle était l'abolition de l'Algérie. Mais juste avant, on fait une petite pause musicale d'une chanson de Fairuz.
C'est ça.
Petit point de vue extérieur sur la première guerre du Golfe, donc avec Myriam. Donc sur, on va prendre l'Algérie justement parce qu'elle est algérienne et était en Algérie à cette époque-là, donc elle va nous raconter ses souvenirs. Mmh. Et déjà vite fait, la position de l'Algérie vis-à-vis de la première guerre du Golfe, quelle était la position officielle, si tu peux nous dire vite fait avant de te lancer.
Bien sûr. Alors l'Algérie avait une position qui était assez réservée vis-à-vis de l'invasion, de la guerre contre l'Irak, mais bien sûr elle a condamné cette attaque irakienne contre le Koweït, parce que le Koweït était quand même un État, donc voilà. Vraiment, le gouvernement algérien a sanctionné cette attaque, et il y a eu un sommet en Égypte qui a eu lieu en début 91. Et à cette époque-là, on se rappelle que le gouvernement algérien donc avait bien expliqué sa position, qu'il condamnait l'invasion sur le Koweït, mais qui restait assez réservé sur une guerre ou une présence militaire américaine dans la région qui allait déstabiliser toute la région. Et on voit le résultat aujourd'hui.
Oui, Égypte qui eux
voilà qui ont soutenu les Américains et le Koweït, les autres États du Golfe aussi. Voilà.
D'accord. Donc l'Algérie, un des rares pays qui soutenait, enfin, qui soutenaient l'Irak, ou plus exactement qui refusaient une occupation ou une nouvelle guerre, surtout.
Tout à fait, tout à fait. Mais en fait, il faut dire aussi que l'Algérie vivait une situation assez compliquée à cette époque-là. Donc, on était déjà à partir de 88, on vit, octobre 88, il y a eu les événements d'octobre 88. Donc, on était presque en guerre, nous aussi. Donc, on voulait éviter aux Irakiens de vivre ce qu'on vivait.
Une instabilité,
une guerre sans fin.
Donc, vous là-bas, vous l'avez vécu comment? Enfin, vous le voyez par les médias.
On avait de la chance, on va dire, que dans le monde arabe, les médias, en fait, le média, la télévision algérienne, l'unique chaîne algérienne, avait envoyé des journalistes qui étaient formés. Donc, on avait des images au quotidien. Donc, on avait des directs aussi sur les attaques. On vivait ça en direct. Et vraiment, on avait de la chance. Et en même temps, on voyait des massacres et des enfants morts. Et ça nous... Moi, je me rappelle, j'étais au lycée. J'avais 15 ans.
Jeune lycéenne
de 15 ans. Donc, je me rappelle, on parlait que de ça. Il y avait presque plus de cours. On parlait que de l'Irak.
Ah oui.
C'était au quotidien et on se levait, je me rappelle, 2h du matin, 3h du matin avec mes parents pour allumer la télé. Dès qu'on entendait un bombardement, on allumait la télé pour regarder ça en direct. C'était vraiment quelque chose d'assez douloureux pour nous. En fait, on parlait que de ça, que de la guerre.
D'accord. Voilà.
Donc c'était une période assez compliquée à vivre, sachant que l'Algérie avait cette position-là. Enfin, elle avait tout fait pour éviter. Mais rien à faire, je me rappelle. C'était le président algérien, Chadli Benjdid, qui a essayé de tenter une dernière fois pour éviter la guerre en organisant un mini-sommet, mais qui n'a donné aucun résultat parce que les États-Unis, les autres pays étaient bien décidés à faire la guerre.
Oui, ils étaient très nombreux de l'autre côté.
En plus, voilà, tout à fait, tout à fait. Donc, ils étaient bien décidés à attaquer l'Irak pour les raisons qu'on connaît, bien sûr.
Oui, pour le pétrole, entre autres. En Irak, vous connaissez un peu le soutien de l'Algérie?
En fait, oui. Je sais que l'Algérie avait une opposition par rapport à cette guerre, mais on sait aussi qu'il n'y avait rien à faire parce qu'on a compris que c'était un piège, que Saddam est entré dans un piège, que les États-Unis... Il a presque le feu vert pour aller envahir le Koweït et c'était l'occasion d'or, quoi. Les États-Unis ne rêvaient jamais de pouvoir mettre les pieds dans les pays du Golfe si Saddam Hussein n'avait pas envahi le Koweït. Et nous, on avait vu ça à la télé la veille. Saddam Hussein avait dit à l'ambassadrice américaine, ben voilà, l'Irak a l'intention d'aller récupérer le Koweït parce que le Koweït faisait partie de l'Irak et l'Irak n'a jamais reconnu l'indépendance du Koweït. Et elle lui a dit, ben c'est une affaire intérieure. Alors le soir, on a dit, ben est-ce que demain Saddam va envahir le Koweït? Ça y est, on était même un peu contents, quoi. Dire, ben voilà, le Koweït ne voulait pas annuler ses dettes. On était épuisés de la guerre avec l'Iran et puis cette invasion, ben non, les États-Unis ont mobilisé tous les autres pays pour... Et Saddam Hussein, jusqu'au dernier moment, il croyait pas, 6 mois après l'occupation du Koweït, il ne croyait vraiment pas que les États-Unis vont attaquer l'Irak. Mmh. Et pour ça, son premier discours après les bombardements, à 5h du matin, son premier discours, les premiers mots qu'il a prononcés, ils nous ont trahis, les traîtres ont trahi.
Je me rappelle de ce...
Voilà, en arabe, un al-khan, un oun. Et parce qu'il ne croyait pas. On lui a donné le feu vert pour aller. Et après, on a compris que c'était un piège et qu'il ne fallait pas entrer dans le jeu des Américains. Voilà, la conséquence, 13 ans d'embargo, il fallait épuiser l'Irak. Il fallait l'épuiser, le vider de son potentiel. Et voilà, le résultat, qu'est-ce que ça a donné?
Oui, donc surtout après 8 ans de guerre Iran-Irak, 13 ans d'embargo. Et là, on arrive donc en 2003 et rebelote, encore une guerre en Irak, envahie par les États-Unis, mais aussi accompagnée des Britanniques.
Oui. Et sans mandat de l'ONU, hein. C'est la première fois, je crois, dans l'histoire que on peut envahir et détruire un pays
sans mandat de l'ONU.
Oui, depuis l'existence des Nations Unies, bien sûr, c'était vraiment c'était d'une violence inouïe, en fait, d'attaquer un pays sans accord. Déjà, même les pays n'étaient pas assez, n'étaient pas tous d'accord pour cette guerre, mais certains pays sont partis parce que les Américains et les Anglais voulaient cette guerre, voulaient absolument attaquer l'Irak, sans preuve en plus.
Oui, les armes de destruction massive qu'on n'a jamais trouvées.
Il faut de l'excuse.
Je pense que les armes de destruction massive étaient les Irakiens même.
Il faut aussi peut-être rappeler la position de la France, qui était quand même le seul presque pays occidental qui a affiché son opposition.
Heureusement, par
le biais de son ministre des Affaires étrangères.
Oui, heureusement, c'est vrai.
Mais ça n'a pas empêché une nouvelle guerre.
Non, malgré les manifestations, malgré l'opposition, non, ça n'a pas empêché.
Et donc là, en fait, les États-Unis ont envahi donc l'Irak assez rapidement. Beaucoup de bombardements.
Oui, beaucoup de bombardements. Et malheureusement, on voyait rien ici. On voit pas les morts. Alors, ils ont bombardé tout, ils ont rien laissé, les ponts, même les théâtres, même les marchés, même les écoles,
les musées, les pillages.
Oui. Le nombre global, enfin, des morts, je pense qu'on le saura jamais. On n'a pas le chiffre exact, mais c'est des millions, hein. Et déjà, de dire qu'il y a le nombre global des veufs, on peut à peu près le savoir parce qu'on dit qu'il y a plus que de 3 millions de veufs. Ça veut dire déjà qu'il y a
3 millions de veuves. Ouais.
Cette situation, bien sûr, a aggravé les conditions de vie des enfants, les familles sans soutien paternel.
Oui, ça a changé complètement le visage de la population irakienne. Les familles sans la figure paternelle.
C'est une guerre atroce et d'où loin vous ne pouvez pas imaginer ce que ça donnait. Moi, quand je vois l'Irak détruit à ce point, je dis, mais c'est comme si on s'est acharné contre ce pays et on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Bon, on sait pourquoi, mais à ce point, et comme a dit Bush, l'Irak est devenu un pays dangereux et puis il fallait revenir à l'époque préhistorique, quoi. Et il l'a fait. Mais ça continue, malheureusement, ça continue.
Et, tu peux peut-être nous expliquer un peu les conditions de vie des veuves en Irak, comment elles sont perçues, est-ce qu'elles ont des difficultés ou non?
Oui, bien sûr, ce sont des chiffres qu'on peut regarder partout. C'est l'ONU qui donne des chiffres. Il y a plus de 100 femmes qui sont réduites au veuvage chaque jour par suite des violences interconfessionnelles, malheureusement. Des attaques des groupes armés, des agressions commises par des bandes criminelles organisées depuis l'occupation en 2003. Et puis, il y a le Fonds des Nations Unies pour la population qui a confirmé dans un rapport final en estimant que le nombre des veufs sera inférieur à la réalité si l'on tenait compte des assassinats difficiles à enregistrer ou non déclarés. Depuis les années d'embargo et de manière pire encore avec cette guerre, c'est une crise. Et au niveau individuel, le désarroi, bien sûr, psychique est profond. Chaque fois qu'on sortait, on ne sait pas si on reviendrait à la maison ou pas. On peut mourir par des tirs des Américains ou par des islamistes ou n'importe comment. Et puis, le foyer même n'est plus en sécurité. À tout moment du jour ou de la nuit, on est envahi au prétexte d'enfuis militaires ou policières. Alors les femmes, même s'ils sont à l'intérieur de leur maison, les soldats américains entraient pour fouiller. Si on cherchait des hommes qu'on ne trouvait pas, on prenait les femmes à leur place.
Ce que tu me disais aussi, c'est que les Américains ont beaucoup joué sur certaines traditions irakiennes, comme quoi quand les femmes étaient à l'intérieur ou ne devaient pas être vues ou n'avaient pas envie d'être vues sans voile, ils rentraient quand même dans les maisons et humiliaient en fait les familles de cette manière par les femmes, enfin en jouant des traditions qui, en fait, ils les connaissaient bien pour pouvoir humilier encore plus les Irakiens.
Oui, c'est qu'ils ont vraiment violé la tradition irakienne. Parce que dans certains villages et même en ville, quand les femmes sont chez eux, un étranger ne peut pas entrer comme ça à tout moment. Et ce qu'ils ont fait, ben, ils cassaient les portes, ils défonçaient les portes, et puis ils entraient à n'importe quel moment. Et les femmes, ben, en chemise de nuit ou dans des conditions privées. Alors, qu'est-ce que ça provoque? Bien sûr, une hostilité envers les Américains, parce que c'est vraiment une violation de la famille. Et du coup, ça crée l'hostilité entre les hommes, les femmes irakiens et les Américains. Ben, on détestait les Américains parce qu'ils n'avaient pas de respect de rien. Et la peur, on n'avait pas le droit. Moi, je me rappelle très bien que en Irak, quand on passait devant les chars américains, ben, il fallait pas bouger, il fallait pas sortir un mouchoir, parce que dès qu'on bouge, ben, les Américains tirent. De vivre cette peur chez soi, ça provoque, bien sûr.
Oui, c'est au quotidien, autant dans la rue,
bien sûr, oui.
Même chez soi, en fait.
Oui, et puis il y avait, bien sûr, je ne sais pas, tout le monde a entendu l'histoire des viols aussi des femmes irakiennes.
Comme déjà dans toute guerre, mais spécialement donc en Irak, oui. Peut-être tu veux un peu nous en parler, ainsi que les viols à Abu Ghraib aussi.
Oui, Abu Ghraib, c'est une catastrophe. Des prisonnières libérées de prison. On regardait des images et tout ça, mais on n'avait pas accès à toute la vérité. Mais c'est quand les femmes se sont libérées qu'on a entendu leur histoire, que certaines se sont suicidées.
Déjà aussi, comme tu m'avais dit, il y a beaucoup de femmes qui étaient en prison, qui n'étaient pas en prison pour ce qu'elles avaient fait.
Exactement.
Mais juste parce que on n'a pas trouvé la personne, donc on les a pris parce qu'elles étaient sœurs ou femmes d'eux, etc.
Exactement, ces femmes ont été arrêtées, non en raison de crimes qu'elles auraient pu commettre, mais pour la personne qu'elles avaient épousée, ou pour des raisons liées à l'espionnage. Et les officiels américains ont reconnu qu'ils détenaient des femmes irakiennes dans le seul but de convaincre leurs maris, leurs hommes, de donner des informations. Ils ont reconnu aussi que les soldats américains entraient dans des maisons et quand ils ne trouvent pas le suspect masculin, ben, ils ont porté à sa place l'épouse, la sœur ou la fille. Et c'est là qu'il y avait des viols.
Je souhaite juste rajouter, Laura, ce que tu disais tout à l'heure, les viols commis par les Américains, mais pas que, sachant qu'après, donc après 2003, la guerre de 2003, des clans qui ont été par exemple sanctionnés ou victimes de Saddam, qui se sont vengés, quand je le disais à Raja tout à l'heure, qui se sont vengés, des dénonciateurs, ils se sont vengés, donc en violant des femmes, en les enlevant. Les Irakiens ont commis aussi des viols comme dans toute guerre.
Ça a tourné en guerre civile, donc en plus...
Donc ils se sont un petit peu vengés sur les femmes. C'était beaucoup plus facile de s'attaquer aux femmes.
C'est le chaos, quoi.
Le chaos total.
Et surtout, ce que tu disais aussi, c'est que les femmes, dans ce cas-là, enfin en Irak, elles sont doublement victimes, parce que victimes d'une barre pour avoir subi le viol, mais aussi parfois victimes en retournant dans leur famille qui ne les acceptent pas, qui soient rejetées, parfois même tuées, c'est ça enfin.
Bien sûr, et puis il y a des prisonnières, c'est vrai, libérées après leur libération, se sont suicidées. D'autres ont été assassinées par leur propre famille. Parce que ces femmes ont été humiliées en prison et ensuite violées par des soldats américains. Et puis la famille ne peut... Ben, c'était la honte, oui, pour la famille. Des victimes, quoi, de la société, de leur famille, des Américains. Et c'est ça, la libération de l'Irak.
Where?
je voulais juste souligner quand même encourager Raja et lui faire dire qu'il y a quand même un petit peu d'espoir, parce que l'Algérie a réussi quand même à faire une petite réconciliation nationale, ce qu'on appelait la concorde civile, et dire voilà, il faut ramener la paix par tous les moyens. Voilà, je rappelais à Raja qu'il y avait récemment donc un vote. Voilà, c'est de l'espoir aussi, donc il y a toujours le moyen d'apporter la paix dans un pays, et la paix elle vient de l'intérieur d'abord.
Oui, mais les votes, ben regardez là, jusqu'à maintenant il n'y a pas de gouvernement. Après, oui, après le vote, ben c'est toujours le conflit entre deux partis, personne ne veut céder le pouvoir. Je sais pas.
On revient de loin. Voilà, Raja, c'est une guerre qui n'a pas encore pris fin. Mais voilà, depuis 80, aujourd'hui, il y a des choses qui changent déjà sur le plan politique. Il commence à y avoir une amélioration. Donc, il faut s'accrocher à cette.
Ben justement, on s'accroche. Mais c'est ce que les Américains ont fait en Irak. Je pense que de l'extérieur, vous n'arrivez pas à voir ce qu'il y a en Irak. C'est impossible. Bon, on garde l'espoir, heureusement.
Une éternelle insécurité. Enfin, moi qui travaille avec toi, je vois tous les jours beaucoup d'attentats. Toi qui écoute les informations, qui essaye d'avoir des nouvelles, c'est une insécurité permanente pour tout le monde en Irak.
Oui, oui.
Donc, effectivement, oui. Il est difficile de voir un peu d'espoir. Mais...
Oui, difficile. On rêve d'avoir la paix un jour. Mais bon, je vous donne comme exemple, par exemple, les femmes quittent le pays, les chrétiens qui vivaient très bien en tant que Saddam quittent le pays. Parce que il y a une menace vraiment importante.
Quand tu dis les femmes quittent le pays, spécialement comme toi, ta sœur, tout ça, vous partez pour trop d'insécurité.
Trop d'insécurité, bien sûr, oui.
L'insécurité, liberté.
Et la liberté, et puis même d'aller travailler tous les matins, c'est très dangereux. En plus, avant, on n'était pas voilé. Maintenant, quand on regarde ce qui se passe en Irak, le voile est devenu, bon, maintenant un peu mieux, mais après la guerre, le voile est devenu presque obligatoire, parce que obligatoire, sans être obligatoire, on avait très peur parce que il y avait les islamistes qui sont venus, après l'invasion américaine.
Oui, alors que comme on a vu, début 80, c'était un pays laïque, autant de femmes pouvaient porter le voile que pas le porter, ça ne me posait pas de soucis dans un sens comme dans l'autre.
Oui.
Puis la guerre venant, le religieux a repris peu à peu le pas,
oui,
c'est ça?
Oui. Les femmes qui ne veulent pas porter le voile, quittent le pays, parce que les femmes conduisaient, les femmes étaient assez libres, et là, maintenant, dans ces conditions, on ne peut pas vivre... Et on attend, en attendant, on verra. En attendant combien de temps, je ne sais pas.
Oui, je pensais juste que peut-être ces femmes-là qui portent le voile aujourd'hui, qui étaient dans les années 70-80 assez libres, s'habillaient peut-être en mini-jupe, je pense que c'est une sorte de deuil ou de... un deuil qu'elles portent en elles, et puis se cacher surtout et être en sécurité.
Pour éviter d'attirer
ces islamistes. Et je me rappelle, même il y avait un ami qui me disait que le peu de femmes qui ne portent pas de voile étaient considérées comme chrétiennes, alors qu'elles n'étaient pas. C'était juste des femmes libres qui voulaient pas porter le voile, et donc on les prenait pour des chrétiennes.
Oui. Et même les chrétiens ont commencé à mettre un foulard sur la tête pour avoir la paix.
On voit bien le changement entre l'évolution de la femme sous Saddam et après Saddam. C'est vrai.
Après 30 ans de guerre, surtout,
c'est une régression vraiment totale pour la femme irakienne. C'est bien dommage, mais il fallait s'attendre à tout ça avec toute cette guerre qui dure et qui perdure encore.
C'est très triste de dire, au nom de la démocratie, de la liberté, les Américains sont allés en Irak pour le détruire et après ils se retirent. Là maintenant on dit les Américains se retirent, maintenant c'est à vous les Irakiens de... Mais les pays étrangers s'interviennent en Irak, et puis le conflit là maintenant entre chiites, sunnites, c'est pas vraiment un conflit intérieur. Il y a beaucoup d'étrangers qui sont rentrés en Irak pour semer le désordre. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Pourquoi déstabiliser l'Irak et l'empêcher de reconstruire, ça arrange les autres.
Bien sûr. Pour les islamistes, c'était le nouveau territoire après l'Afghanistan pour faire de l'Irak la nouvelle guerre sainte. Donc tous les islamistes de Syrie, d'Algérie, du Maghreb, des autres pays sont venus en Irak parce qu'il y avait vraiment toutes les conditions pour mener une guerre sainte. Et c'est ce qui a alimenté donc cette guerre entre sunnites et chiites. Et voilà, il faut dire que cette dame, il maintenait bien les choses quand il était au pouvoir. Ouais.
Et maintenant, voilà, si on regrette... Ça dame que on avait la paix, on avait la sécurité, et puis maintenant on comprend que c'était un pays difficile à maintenir avec toutes les communautés différentes. Oui, la différence. Dit mais comment il arrivait à tenir le pays?
Ouais. C'était un dictateur.
Ouais.
Bon, sur ces paroles, on va une dernière petite chanson. Puis merci beaucoup à Raja et Myriam
pour cette
émission.
Move!